à la découverte des fermes du Vercors, une série du parc naturel régional du Vercors, réalisée par Radio Royan.
Aujourd'hui, rencontre avec Fabien Lombard, du domaine de Pellon à Suse.
Alors, je suis Fabien Lombard, vigneron à Suse, donc je suis sur le domaine Pellon. Le domaine Pellon, c'est un domaine viticole familial, donc Suse, c'est une commune dans la vallée de la Gervanne, et on est une commune entrante dans le parc depuis 2025. Alors, le domaine de Pellon, c'est un domaine qui est sur la colline de Pellon, c'est assez simple en fait. Pellon, ça veut dire en occitan montagne longue, donc du coup le domaine s'appelle comme la colline. C'est une petite colline qui est pas très haute et qui est toute en longueur, donc c'est pas les hautes montagnes du Vercors, mais par contre nous on est dans la vallée de la Gervanne, au pied du massif de Saint-Pancras, donc qui est un site assez exceptionnel, puisque c'est un synclinal perché, comme celui de la forêt de Soum, mais en beaucoup plus petit. C'est assez vert, puisque plus de la moitié en fait, du territoire est couvert par la forêt, mais il y a aussi dans les bas de coteaux une activité agricole assez riche, avec de l'élevage, avec des grandes cultures, et puis de la viticulture avec l'AOC Clairette de Die. Alors, sur la commune de Suse, on a la particularité d'avoir trois terroirs différents. Donc, il y a le terroir du vieux village de Suse, où nous, on a surtout des clairettes. C'est un sol très sableux. C'est justement ces éboulis en fait, que l'on retrouve aussi dans le massif central. Il n'y en a pas beaucoup des sols sableux comme ça dans la Drôme, mais en tout cas, nous, sur le vieux village, on en a. Donc, c'est des sols qui sont assez intéressants parce qu'après une pluie, on peut passer, ça ressuit très vite. Après, plus autour du domaine, on est sur des argilo-calcaires, plutôt des éboulis justement du massif du Vercors. Donc là, c'est plus argileux, plus adapté pour les rouges. Et puis après, on a aussi des terrasses alluviales, donc des terrasses déposées par la Gervanne ou la Drôme. Et là, c'est plutôt des galets roulés. Donc, en fait, les trois terroirs cohabitent sur le domaine. C'est un domaine familial qui est assez ancien, puisque nous, ça fait à peu près 150 ans qu'il y a des vignes sur le coteau de Pellon. Moi, je suis la sixième génération et je me suis installé avec mon épouse Christelle à partir de 1998. Et aujourd'hui, on travaille à trois sur le domaine avec Pauline qui vient renforcer l'équipe. Sur l'exploitation, on produit essentiellement du vin blanc, du vin rouge, du vin rosé. Des vins effervescents, donc quand il y a beaucoup de bulles, ou des vins pétillants quand il n'y a pas trop de bulles. En fait, c'est un domaine qui fait à peu près 5 hectares de vignes, donc c'est assez petit en termes de surface. Après, on a d'autres parcelles pour des cultures autres, mais voilà, qui ne sont pas valorisées directement au domaine. Et sur ces 5 hectares, on a 13 variétés différentes. Donc c'est assez vaste, en fait. Classiquement, il y a 2-3 variétés dans un domaine viticole. Nous, on a fait le choix, sur une petite surface, d'avoir beaucoup de variétés. Et ces variétés, on vinifie 12 vins différents. Donc entre les blancs, les rouges, les rosés, les vins effervescents et les vins pétillants. Alors il y a deux vins qui sont assez emblématiques du domaine. C'est l'Oublié d'abord, donc c'est un vin blanc dans une appellation qui s'appelle le Coteau de Die. Donc c'est une petite appellation en termes de surface qui fait à peu près 5 hectares sur l'ensemble de la vallée de la Drôme et du Diois. Et nous, on a là un peu plus d'un hectare de cette appellation. Et donc ça, c'est un vin blanc tranquille, donc sans bulle, que nous, on boise. Donc il y a un élevage en gros fût qui permet d'avoir de la finesse et de l'élégance dans le vin. Donc ça, c'est notre vin blanc phare sur le domaine. Et puis l'autre vin un peu signature, c'est l'Inespéré. C'est un assemblage en rouge de deux cépages. Un qui est assez local, la Syrah, qu'on retrouve dans toute la vallée du Rhône-Nord. Et le deuxième cépage, c'est le Cabernet Sauvignon. Ça, c'est un peu plus exotique, puisque ça vient de Bordeaux. Mais nous, on en a mis en 1999 dans nos vins. Et depuis, voilà, on en remet un petit peu dans l'assemblage de l'Inespéré. Pour reprendre l'exploitation, ça a été assez simple au final, puisque depuis tout petit, c'est ce que j'aimais faire. J'aimais être dans les tracteurs, dans la vigne, au contact de la terre. Donc ça, c'était pour moi une évidence. Donc c'est vrai que dès la troisième, j'ai dit à mes parents que je voulais faire un lycée agricole. Donc j'ai fait un bac dit à l'époque des primes, donc un bac agricole. Puis à la suite, j'ai fait un BTS VT ENO et un diplôme d'œnologue. Donc du coup, c'est là où j'ai rencontré mon épouse, Christelle, qui est aussi œnologue comme moi. Et du coup, on s'est installé après, en 1999, dès la fin de nos études. Voilà, on n'avait pas forcément envisagé de tout de suite s'installer. On voulait faire 2-3 expériences à l'extérieur. Mais la situation familiale exigeait en fait qu'on revienne un peu plus vite sur le domaine. Et donc du coup, on s'est installé en 1998 et on a vinifié nos premiers vins en 1999. Alors, ce qui a changé, en fait, au moment où nous, on s'est installé, c'est plutôt la perception, notamment, de l'agriculture biologique. Alors, certes, mon grand-père, en fait, travaillait en bio sans le dire, hein, puisqu'il était beaucoup en traction animale. Il avait une petite exploitation. Il avait seulement 2,5 hectares de vigne, donc c'était une toute petite surface en vigne. Mais il faisait son vin, il le vendait ici au domaine déjà. Et après, c'est une exploitation assez diversifiée. Les années 60 sont arrivées par là avec mes parents qui sont installés. On était plutôt sur une concentration, en fait, des cultures. Donc, mes parents sont partis dans deux directions. La première, c'est l'élevage, donc l'élevage porcin, qui aujourd'hui est abandonné sur l'exploitation depuis les années 80. Et la deuxième voie, c'était la viticulture avec la cave de Digeillance. Et donc, ils ont planté en fait un certain nombre de vignes. Ils sont passés de 2,5 hectares que mon grand-père avait à une douzaine d'hectares. Quand nous, on s'est installé avec Rissel, donc il y avait un peu plus de 12 hectares sur le domaine. On a continué à travailler les vignes pour Jaillance. Donc aujourd'hui, on a encore 6 hectares pour Jaillance et on a 5 hectares en cave particulière. Mon approche sur la partie agriculture et agriculture biologique, alors ça a été d'abord pour nous, parce qu'on est les premiers en fait à être dans la vigne. Donc on a fait ce choix dès 2003 de travailler en partie en bio, puis après complètement, puisqu'en 2009, on a été certifié sur le domaine. L'idée, c'est de pas mettre d'intrants chimiques. Donc, pour la vigne, quand même, on a besoin de traiter. La vigne, c'est pas une plante facile. Même s'il fait très beau cette année, on a moins traité. Mais malgré tout, il y a quand même du mildiou, il y a de l'oïdium, de maladies. Et donc, on a besoin de mettre du soufre et du cuivre. Pas beaucoup de travail du sol, un tout petit peu sous le rang, mais très peu. Beaucoup d'enherbement. Mais ça, c'est déjà une pratique que mon père faisait. Même s'il n'était pas en bio, il avait déjà un enherbement très, très poussé. Et puis après, on met des fumiers de moutons pour nourrir la vigne. Donc, c'est quelque chose d'assez simple en bio, hein. C'est du fumier de mouton. Un peu de mildiou, un peu d'oïdium avec du soufre et du cuivre. Et puis après, donc, un peu d'entretien du sol, mais léger. On a mis en place un programme avec le syndicat de la Clairette de Die et le parc naturel régional du Vercors sur des nichoirs et des haies dans les vignes. Alors ça, c'est un peu plus récent dans le domaine. C'est une suite logique. Hein. Dès l'instant qu'on a une vigne qui se porte bien, on a envie qu'elle soit encore mieux et encore plus résiliente. Et on voit aussi qu'on en a besoin pour lutter contre le réchauffement climatique actuel. Donc on a mis en place des nichoirs à mésange, des nichoirs à chauve-souris. Parce que dans la vallée de la Gervanne, on a une zone Natura 2000 qui est très riche en fait en chauve-souris. Et après, on a aussi replanté des haies et des arbres isolés, comme quelques mûriers. Les mûriers, ça fait partie du patrimoine en fait de la vallée de la Gervanne avec des vers à soie. Alors c'est difficile en matière de biodiversité de quantifier et de qualifier en fait les effets. Ce qu'on voit nous en tout cas, c'est qu'on n'a pas recours à des insecticides dans les vignes. Donc déjà, c'est un premier point, c'est que le milieu est suffisamment résilient pour qu'il y ait des insectes hein, qui sont nuisibles pour la vigne. On a des petites cicadelles, on a des petits vers qui mangent les raisins. Pour l'instant, ils sont en quantité limitée et acceptable. Et ça, c'est probablement dû à ce milieu qui est assez riche dans la vigne. Mais par contre, dire, voilà, parce qu'on a mis des nichoirs à mésange et à chauve-souris, on a moins de vers de la grappe, c'est pas évident. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas d'insecticides dans les vignes. Les mésanges et les chauves-souris ont été choisis spécifiquement parce qu'elles ont un rôle, en fait, pour débarrasser, entre guillemets, tous les parasites de la vigne. Donc, effectivement, les mésanges, comme les chauves-souris, mangent les cicadelles et mangent les vers de la grappe. Donc là, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, notamment sur le vignoble de Bordeaux. Donc, en fait, on s'en est inspiré, hein, quand on a monté le programme, on est allé voir ce que les autres avaient bien fait. Et on s'est dit, on va faire pareil et mieux. Et là, on a mis donc 10 nichoirs à mésanges et 10 nichoirs à chauves-souris par hectare. Donc, ce qui est une densité intéressante. Et on a replanté, nous, sur le domaine, environ 300 mètres linéaires de haies. On n'a pas replanté beaucoup de haies parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait déjà beaucoup d'arbres et beaucoup de haies, beaucoup de forêts. Quasiment toutes nos parcelles sont en bordure d'une haie ou d'une forêt. Donc, on a la mis là où il en manquait, mais on avait déjà un milieu qui était assez agréable. Alors, la haie, en fait, c'est sur le long terme. Le nichoir à mésange, le nichoir à chauve-souris, c'est parce qu'il manque des habitats. Donc, on a besoin de les rajouter rapidement. Par contre, les arbres isolés et les haies, c'est pour dans quelques années, quand elles seront développées, c'est là que les oiseaux iront. Donc en fait, on est en deux temps, du très court terme et du long terme. Travailler sur le vignoble, en fait, c'est au moins on plante une vigne pour 50 ans, voire plus. Donc du coup, effectivement, on est sur un temps long quand on est vigneron. Moi, j'ai des vignes que mon père et ma mère ont plantées dans les années 70, notamment une des plus belles parcelles, elle a été plantée en 1972 de cépage clairette. Et elle donne encore des magnifiques raisins. Donc, ça nous permet voilà, de se dire que pendant des années, on a récolté sur ces parcelles-là. Après, nous, on a replanté l'année dernière une parcelle de vigne avec un cépage, le Vermentino, qui s'appelle aussi le Roll quand on est en Provence et en Corse. Et c'est un cépage qui est très résistant à la sécheresse. Donc, en fait, aujourd'hui, on est obligé de voir sur le temps long, sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, on va planter des cépages comme le Grenache noir, comme le Mourvèdre, comme le Vermentino, qui sont des cépages plutôt résistants, et la Clairette également, plutôt que de planter du gamay ou de la syrah. Alors nous, l'accueil du public, en fait, c'est toute l'année. Du lundi au samedi, la cave est ouverte de 17h à 19h. Donc ça, c'est un point important. On a depuis le début, en fait, privilégié la vente directe. Donc, on vend plus de la moitié de nos bouteilles ici au domaine. Après, donc, on fait des visites une fois par semaine, le lundi en ce moment. On fait des dégustations thématiques également autour du cépage Clairette, justement ce cépage emblématique de notre vallée de la Drôme. On fait des ateliers nichoirs. Et puis après, tout l'été, il y a des repas le mercredi, jeudi et le vendredi en accord avec les vins. Alors, pour rentrer dans un tout bout de champ, ça a été voilà, pour nous une évidence parce qu'on accueille déjà beaucoup au domaine. L'idée, c'est de proposer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire une visite du vignoble avec Christelle, donc ma femme, qui va prendre toutes les personnes qui seront là. Et on fera des plus petits groupes s'il y a vraiment beaucoup de monde pour aller visiter les vignes et finir par une dégustation en haut du coteau de Pélon. Et pendant ce temps-là, s'il y a des enfants qui veulent pas aller crapahuter dans les vignes, on a un atelier nichoir, justement. Donc Pauline, qui travaille avec nous, sera en charge, en fait, de faire réaliser des nichoirs à mes anges, aux enfants et aux plus grands, s'il y en a qui veulent aussi faire des nichoirs. On peut les peindre, on peut les graver, voilà. C'est assez ludique. Et puis ensuite, sur le programme d'À tout bout de champ, on a la chance d'avoir dans la vallée de la Gervanne, sur Gigoré-Lozeron, qui est aussi une commune du parc, un artiste qui est Fred Dubonnet, qui va jouer un spectacle donc agriculturel, donc vraiment autour de deux modèles agricoles et de deux frères qui sont un plus sur la production et un plus voilà, sur les petites structures. Donc, il fait cohabiter ces deux personnages pendant son spectacle sur à peu près une heure de spectacle. Donc, ça sera sous le hangar. Donc, on enlève le matériel, on s'installe, on met des tables, des chaises et on s'installe dans le hangar du domaine. Donc, ce sera à l'abri du soleil et de la pluie s'il y a des intempéries ce jour-là. Et puis ensuite, pour poursuivre la soirée après le spectacle, ceux qui veulent peuvent rester pour un repas au four à bois. C'est toujours pour nous, pour accueillir en fait manifestations comme Tout bout de champ, c'est hyper intéressant parce que ça permet en fait d'aller directement au contact du consommateur, qu'on dit souvent consommateur et acteur. Et effectivement, bah, c'est important qu'ils se rendent compte de là où sont produits nous les vins, mais ça peut être d'autres cultures dans d'autres fermes. Et c'est aussi de marier, parce que quand on est producteur de vin, on aime bien les repas, on aime bien les accords mets et vins. C'est aussi de marier ben, le bleu du Vercors et d'autres productions du parc du Vercors dans ce repas.
Vous venez d'écouter le portrait sonore du domaine de Pélongue qui se trouve à Suse.
Un épisode de la série « À la découverte des fermes du Vercors » réalisé par Radio Royan et soutenu par les départements de la Drôme et de l'Isère. Retrouvez la suite des épisodes sur le site internet du Parc naturel régional du Vercors.